Céline Jourdan et Pierre Lebrun, bonjour.
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 Vous êtes membre de l'équipe d'animation d'Alternativa Rennes et membre de la commission Action Non Violente COP21. Action Non Violente COP21 ou ANV COP21, c'est un mouvement populaire et non violent donc pour relever le défi climatique. Le mouvement se veut notamment là pour dénoncer les projets et les politiques aggravant le changement climatique, replacer la lutte contre le changement climatique au centre de l'agenda politique et médiatique et surtout mettre l'accent sur l'urgence à réagir. À Rennes aussi, le mouvement existe donc puisque vous êtes là pour comprendre un petit peu comment est-ce que ce mouvement se structure. Je crois qu'il y a au niveau national, il y a aussi au niveau des régions donc et des villes.
Il y a une partie ANV COP21 et une partie Alternativa. Donc on a au niveau national, on a donc ce qu'on appelle le national qui lance des campagnes du coup nationales que chaque groupe est libre de reprendre ou non. Et après on a donc pareil Alternativa et ANV au niveau local qui ont aussi leur propre campagne par rapport aux enjeux locaux qu'il peut y avoir. Selon les régions et les villes, Alternativa peut être fusionnée avec ANV COP21 ou ça peut être indépendant.
Donc c'est deux mouvements de base qui n'ont pas, enfin qui ne viennent pas de la même des mêmes personnes, c'est ça? Et potentiellement ça peut se.
C'est si. Alors du coup, c'est les mêmes personnes au départ. Alternativa est née en 2013 à Bayonne et issue du mouvement d'ailleurs basque qui s'appelle Bizi. Et parmi ces personnes-là, il y a eu l'envie de... Parce qu'Alternativa, c'est plutôt la promotion des alternatives. Et parmi ces personnes-là, il y a eu aussi l'envie de faire de la résistance et de la désobéissance civile contre les projets climaticides dont vous parliez. Et donc ça, ce mouvement ANV COP21 est né en 2015, au moment de la COP21 à Paris. Mais c'était les mêmes personnes, et... sauf qu'il y avait voilà, une volonté d'avoir deux organisations au départ. Et par contre, depuis 2017 ou 2018, les deux organisations ont fusionné au niveau national. Et du coup, comme l'expliquait Céline, après, ça a été un choix pour chaque groupe local de fusionner ou pas, ou de garder une entité ANV à part entière. Mais grosso modo, même au niveau local, c'est les mêmes collectifs.
Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une hiérarchie pyramidale ou...
Au sein des mouvements, au niveau des groupes locaux, alors déjà, on a effectivement un principe d'horizontalité. Et chaque groupe local a une autonomie sur l'organisation. Donc, par exemple, nous, à Rennes, au fur et à mesure que le groupe s'est structuré, on a développé des commissions, une équipe d'animation dont on fait partie avec Céline pour gérer un peu le quotidien des mails, animer les réunions, etc. Mais voilà, c'est vraiment, en tout cas au niveau local, une autonomie dans la façon de fonctionner des groupes locaux. Et après, au niveau national, il y a une équipe d'animation qu'on appelle la team. Et puis, on se réunit tous les 3 à 4 mois en coordination nationale, où il y a tous les groupes locaux de France qui viennent. Et c'est une sorte d'assemblée générale où on prend les décisions pour le mouvement au niveau national.
C'est pas du tout une association loi 1901, c'est...
Si, c'est une association loi 1901, sauf voilà, pour les groupes ANV locaux qui ont décidé de rester indépendants sans statut associatif.
Vos moyens et méthodes d'action sont des actions de masse, des actions décentralisées qui se produisent simultanément dans plusieurs endroits, mais aussi des actions donc locales, voire même des actions secrètes réactives, c'est ça?
Oui, ça peut effectivement.
Quel type d'action, par exemple, concrètement, vous mettez en place ou vous avez pu mettre en place?
Alors par exemple, l'année dernière, on a lancé une campagne sur Open Sky. Donc c'était un projet à côté de passé de centre commercial sur 9 hectares de terres agricoles. Et donc on a d'abord signé un CP avec plusieurs autres associations pour dénoncer ce projet. Et suite à ça, on a fait plusieurs actions, dont une qui était un die-in devant
Rennes Métropole.
Voilà, pour dénoncer ce projet qui nous semblait complètement aberrant.
Et effectivement, pour répondre à votre question, on est aussi allé devant la mairie de Passé, puisque le projet est sur la commune de Passé. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est des actions qui ne sont pas annoncées à l'avance, qui sont travaillées en interne, et on fait très attention à la confidentialité des informations pour pas que... Alors là, il n'y avait pas grand risque de présence policière, mais ça pouvait quand même. Donc on essaie de garder un maximum les informations secrètes à l'intérieur du groupe jusqu'au jour de l'action, quoi.
Donc dying, sitting notamment, c'est des choses que, des actions que vous pouvez mettre en place. Dying, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est faire semblant d'être mort, c'est ça, devant un bâtiment pour le coup officiel. Le sitting, c'est s'asseoir en groupe, en groupement de masse, pareil, devant des bâtiments pour dénoncer, en tout cas là, dénoncer ce projet en particulier. Combien vous êtes à Rennes à lutter ?
Alors c'est un peu compliqué à définir parce que on n'a pas d'adhésion qu'on peut chiffrer. Du coup, on a juste des personnes qui viennent et donc on peut pas donner un chiffre exact. On peut donner une estimation.
Je pense que sur l'ensemble de l'association, on doit être une cinquantaine d'actifs. Et après, effectivement, l'intérêt entre guillemets de l'association aussi, c'est que chacun peut s'investir dans ce qu'il a envie. Donc, dans la commission ANV, par exemple, on est un groupe de 20-25 actifs. Il y a d'autres personnes qui préfèrent se concentrer sur la partie plus alternative, c'est-à-dire plutôt la promotion des alternatives, s'engager dans une campagne qu'on est en train de faire en ce moment pour les municipales, par exemple, d'aller interpeller les candidats aux élections municipales en leur faisant signer une série de mesures. Donc voilà, mais en gros, ouais, on est une cinquantaine d'actifs. Après, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui passent et qui repartent. On a même d'ailleurs pour les actions une liste d'activistes qui ne veulent pas forcément s'investir quotidiennement dans l'association, mais qui souhaitent être appelés ponctuellement quand il y a des actions. Et je pense qu'il y a au moins 200 personnes dessus, quoi.
Pour revenir rapidement à ce que vous disiez juste avant, vous essayez notamment de garder donc les informations confidentielles pour éviter que les forces de l'ordre arrivent. Vous êtes une action non violente, mais malheureusement, vous êtes confronté régulièrement aux forces de l'ordre.
Alors, au niveau local, on n'a pas encore été beaucoup confronté aux forces de l'ordre. Au niveau national, un peu plus, parce que on a donc des actions qui sont plus locales, mais on a aussi des actions au niveau national qui vont réunir tous les groupes Alternatiba. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu en décembre, il y a eu une action devant la Société Générale. Donc là, il y avait quelque chose comme 900 personnes. Donc là, les forces de l'ordre étaient déjà présentes avant l'arrivée. Et en avril, c'était une action qui s'appelait « Bloquons la République de Macron, la République des pollueurs ». Et donc, dans cette action, on était 2000 et il y avait aussi la présence des forces de l'ordre.
On a fait une action le jour du Black Friday, qu'on a renommé le Block Friday.
Black Friday à Rennes, oui.
Où on a été en inter-orga à bloquer les galeries Lafayette. Bon, là, les forces de l'ordre ont fini par intervenir et nous déloger. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'était une des actions du Light Off, là, les actions qu'on fait sur l'éclairage des vitrines, où on a eu un contrôle d'identité sur une action qu'on a fait où on allait repeindre les vitrines qui étaient hors la loi.
On va en reparler, ouais.
Voilà, et okay. Du coup, bon, mais c'était très cordial, on peut en reparler.
Globalement et concrètement, si on ne passe pas l'action, qu'est-ce qui va se passer ?
Ouais, vas-y.
C'est compliqué, on est en constante interrogation au sein du mouvement sur quoi faire face à l'immensité du problème qui nous arrive. On essaye de faire des choses à notre échelle, mais le problème du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, éventuellement de l'effondrement du système politique et économique qui arrive, est tellement immense que oui, on se réinterroge tous les jours, on se demande tous les jours à quel point notre action est efficace face à cette immensité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fait du bien d'être dans l'action, de partager ça avec des gens qui partagent ces convictions-là. Et voilà, il y a quand même des choses qui avancent. Enfin, c'est à une petite échelle, mais c'est déjà ça. Je pense que ce que les militants se disent au sein de l'association, c'est que le message Alternatiba, c'est vraiment ça, c'est de dire il faut à la fois faire la promotion d'alternative pour construire le monde de demain, mais si on fait que ça, le monstre de la société de consommation, du capitalisme, va continuer de vivre à côté de ça. Donc il faut aussi qu'on soit en résistance face à tous ces projets qui accélèrent le réchauffement climatique, tout ce qu'on appelle les projets climaticides. le développement d'un aéroport, le développement d'un centre commercial Open Sky contre lequel on s'est battu l'année dernière, dont a parlé Céline. Voilà, et des choses à plus petite échelle comme se battre contre l'éclairage des vitrines et des magasins la nuit, qui sont des choses voilà, qui ont moins d'impact, mais qui sont peut-être plus réalisables aussi. Donc voilà, il faut se battre sur tous les fronts.
Est-ce que vous vous posez la question de vous dire pourquoi vous êtes un petit nombre et pourquoi tout le monde ne prend pas le problème à bras-le-corps? Est-ce que vous vous posez, vous, cette question-là?
Effectivement, c'est une question qu'on se pose à Alternatiba. On fait souvent des auto-formations au sein d'Alternatiba où on s'apprend des choses les uns les autres. Et donc, c'est effectivement une question qui est revenue plusieurs fois. Et c'est pour ça que Alternatiba et ANVCOP21, ce sont des mouvements dits de masse, en fait. On essaye justement d'amener le plus de monde vers ça. On n'essaye pas de convaincre les personnes, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des personnes qu'on n'arrivera pas à convaincre. On essaye juste de faire pencher ceux qui sont déjà dans l'hésitation à nous soutenir.
Un des objectifs du mouvement, c'est effectivement la massification. Et du coup, la stratégie non-violente qui peut des fois nous être reprochée, hein, clairement, mais c'est une stratégie qui va dans le sens de la massification parce que à chaque fois, on se pose la question de la façon dont on met l'opinion publique derrière nous ou pas, en fait. Mais c'est un travail de longue haleine, hein, c'est clair, d'aller convaincre les gens. Mais en tout cas, notre position, c'est ça. C'est d'être dans la non-violence pour essayer de montrer... à quel point notre action est légitime, d'autant plus qu'on fait ça à visage découvert et qu'on assume tous nos actes, et de mettre un maximum de monde derrière nous, quoi. De là à ce que ça entraîne du passage à l'action et de l'engagement dans notre association, c'est encore autre chose. Mais déjà, si on a gagné le combat de l'opinion publique, c'est déjà ça, quoi.
Par rapport à la non-violence, j'allais dire que c'était aussi... En général, on s'adresse à des personnes en particulier. Donc, par exemple, quand on fait une campagne contre la Société Générale, on vise des personnes. Et la non-violence, c'est aussi une stratégie pour leur permettre de changer de point de vue. Parce que si on fait preuve de violence, on s'attend aussi qu'en retour, ben, du coup, elles fassent aussi preuve de violence.
Vous le disiez tout à l'heure, menez notamment une action auprès des élus, des futurs, en tout cas, candidats à l'élection municipale. Est-ce que vous... pensez que nos élus et les politiques ne vont pas assez loin, ou en tout cas pas assez vite?
Oui, c'est clair. Enfin, il y a encore des choses qui vont clairement pas assez vite. Enfin, on va en reparler sans doute tout à l'heure encore, mais sur l'éclairage des magasins la nuit, par exemple, c'est une loi qui existe depuis 2013. Les magasins sont censés éteindre leur éclairage entre 1h et 7h du matin. Ça a toujours pas. Enfin, je veux dire, la mairie a pris aucune mesure pour faire appliquer la loi jusqu'à maintenant. On a un autre combat contre la pub. Il y a déjà une grande ville en France, Grenoble, où ils ont mis en place la suppression de la pub. À Rennes, on en est encore loin, quoi. C'est des petits exemples, et puis des projets comme Open Sky qui finalement, bon, la mobilisation a fait que les élus ont flanché et pour l'instant ont stoppé le projet. Hein. Mais les terres appartiennent toujours aux promoteurs, mais voilà, d'avoir encore des projets comme cela, comme l'augmentation de la fréquentation sur l'aéroport par exemple, ça nous paraît complètement incompatible avec les enjeux climatiques qui arrivent, quoi. Donc effectivement, il y a encore du chemin à parcourir, et puis au niveau national, n'en parlons pas, quoi.
Vous êtes donc une association apolitique, mais vous proposez en tout cas auprès des élus et des futurs élus des alternatives pour changer aujourd'hui et dès demain le problème qui nous arrive droit dessus, c'est ça?
Alors, je corrige juste, on est un mouvement apartisan, ça veut dire qu'on ne va jamais soutenir un parti. Par contre, les problématiques sur lesquelles on travaille sont évidemment politiques. Donc voilà, c'est juste que même si là, pendant la campagne sur les élections municipales, on va aller voir chaque parti en leur demandant de signer des mesures, on ne prendra pas parti. On mettra en avant les partis qui ont signé le plus de mesures, mais on n'appellera jamais à voter pour un parti en particulier. Voilà. Mais par contre, toutes les questions qu'on traite sont évidemment politiques. Et récemment, par exemple, on a relié la cause de la réforme des retraites. Hein. On a fait toutes les manifestations là, depuis le 5 décembre. Donc c'est aussi dans notre objectif de dire que la justice climatique ne doit pas être sans justice sociale. Donc on s'empare, c'est assez récent, hein, mais on s'empare de ces questions-là aussi, Alternatiba, quoi.
Des questions sociales en plus, donc des questions, de climat et écologie.
Oui.
Je voulais vous demander, moi, si vous aviez eu des retours concrets sur les actions que vous meniez à Rennes, votre mouvement, si les choses bougent, en tout cas au niveau rennais. Est-ce que, par exemple, là, pour ce qui est de la liste que vous proposez auprès des candidats, est-ce que vous avez déjà eu des réponses ?
Alors là, c'est en cours. Moi, je ne fais pas partie de ce groupe de travail-là, mais je sais qu'ils vont rencontrer au moins 3 partis en février, les autres d'ici les municipales. Mais sur est-ce que le mouvement bouge, enfin moi ça va faire 3 ans que je suis dans le mouvement, clairement j'ai vu l'évolution quoi. Là, on a énormément de sollicitations, on a été pas mal connus aussi grâce à la fête des possibles qu'on organise tous les ans en septembre, qui réunit près de 40 associations. On sent qu'il y a un engouement, enfin en tout cas on commence vraiment à être connus dans le paysage associatif rennais, et je pense que c'est la même chose pour les autres groupes locaux quoi.
Pierre, du coup, on va revenir donc sur la commission dans laquelle tu es. Tu es donc co-référent du groupe Light Off, ou Lumière Éteinte en français, qui mène donc des actions contre l'éclairage des vitrines et des magasins, comme tu le disais. Concrètement, comment ça se passe quand vous menez ces actions-là de nuit ?
Alors là, du coup, il y aura une action demain qui ne sera pas de nuit. Là, c'est la 3e action qu'on fait où, pour le coup, on va aller dans les rues sans interpeller les passants et les commerçants. Mais effectivement, on a commencé par faire 2 actions de nuit, donc le dimanche soir en octobre et en décembre, où on allait repérer donc toutes les enseignes qui étaient allumées après la fermeture des magasins, plus du repérage qu'on a fait ensuite après 1h du matin, puisque c'est la loi hein, que les enseignes doivent être éteintes entre 1h et 7h du matin. Et donc là, les premières actions, ça a plutôt été de l'affichage pour interpeller à la fois les commerçants, à la fois la mairie sur l'application de la loi et aussi les futurs candidats aux municipales. On a refait une 2e action, toujours un dimanche soir, où là, on a visé directement les enseignes qu'on avait repérées vraiment hors la loi, c'est-à-dire celles qui étaient vraiment, qui étaient toujours allumées entre 1h et 7h du matin. Et là, on fait un autre type d'action où on se dit, bon, maintenant c'est le moment de rentrer en communication, entre guillemets, avec les commerçants, d'aller demander clairement aux passants ce qu'ils en pensent. Et puis, donc voilà, demain, on va aller interpeller les passants dans la rue, leur faire signer une pétition et leur demander ce qu'ils pensent de cet éclairage la nuit. Sachant que donc, la réglementation, c'est extinction entre 1h et 7h du matin. Tant qu'à faire, nous on revendique que ce soit éteint dès la fermeture des magasins.
C'est à la fois donc vitrine extérieure, je suppose, l'éclairage des magasins au niveau des rues et également à l'intérieur des magasins ?
Oui, effectivement. Du coup, dans la loi, ça comprend aussi l'intérieur des magasins. Certains peuvent avoir leur vitrine éteinte, mais tout l'intérieur du magasin allumé pendant toute la nuit, ça arrive. Donc ça concerne les deux. Hein. Enfin, voilà.
Est-ce que c'est pas aussi pour des questions de sécurité, peut-être ? Je sais pas. Enfin, le fait de laisser allumer à l'intérieur, c'est plus facile pour repérer si, par exemple, d'éventuels intrus viendraient à rentrer dans le magasin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions comme ça qui expliqueraient un éclairage des magasins ?
Non, pas à notre connaissance. On a su, en faisant notre repérage, on s'est rendu compte que c'était surtout les grosses enseignes hein, qui restaient allumées la nuit.
Vous savez combien à peu près d'enseignes, vous avez repéré en tout cas, combien d'enseignes ?
Alors, sur vraiment sachant qu'on a fait qu'une petite partie du centre-ville, hein, mais les enseignes qui sont vraiment hors la loi, entre guillemets, il y en a au moins une dizaine, voire une quinzaine. Et après, toutes les enseignes qui sont toujours allumées, même avant 1h du matin, on explose les compteurs, on en a recensé plus d'une cinquantaine. Mais sur la question de l'éclairage la nuit, non, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que c'est souvent dans la politique en fait, des grandes chaînes directement. Donc les enseignes au niveau local ne sont pas forcément responsables, c'est des politiques nationales en fait, qui demandent expressément à ce que les lumières restent allumées la nuit pour des questions de marketing en fait. Ce qui nous semble un peu aberrant vu la fréquentation qu'il y a la nuit. Voilà.
Les gens font moins du lèche-vitrine voilà. À 4h du mat.
Donc bon, voilà. Mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des sous. Parce que c'est une consommation énorme d'énergie. Quoi.
Et cette action-là, j'imagine qu'elle n'est pas très bien vue de la part des commerçants, en tout cas de ceux qui laissent allumer. Et comment, est-ce que vous avez déjà eu des dialogues avec eux, avec notamment les enseignes que vous aviez directement visées ?
Bah, là, c'est ce qu'on va faire demain, du coup. C'est la première fois qu'on va rentrer en dialogue avec les commerçants. D'une part, on sait très bien que les gens qui travaillent dans ces magasins-là sont la plupart du temps des salariés et que ce n'est pas les dirigeants. Hein. Donc, nous, on ne vient pas là pour leur faire la morale, on vient là pour les sensibiliser.
Depuis le 1er janvier 2020, à Rennes, toutes les terrasses des cafés, des restaurants n'ont plus le droit, notamment de mettre des chauffages en extérieur. C'est un petit pas vers du meilleur, en tout cas.
On n'a pas encore travaillé sur cette question. Je suis pas forcément.
C'est plus un coup de com' que.
Oui, j'ai entendu dire aussi que c'était plus pour des questions esthétiques. Il faudrait vraiment étudier la consommation de ces chauffages de terrasse. C'est une question sur laquelle on s'est pas encore penché, mais à mon avis, ça mérite de creuser parce que je sais pas si l'impact est si important que ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque de. Si les terrasses sont supprimées, je sais qu'il y a plein de bars à Rennes qui sont très petits et à qui ça va faire perdre un gros chiffre d'affaires. Donc,
c'est à double tranchant.
Donc voilà, il faut tout mettre dans la balance hein, quand on mène des campagnes comme ça. Et voilà.
Affaire à suivre donc.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Céline Jourdan et Pierre Lebrun. Je le rappelle, vous êtes membre de l'équipe d'animation et d'Alternatiba à Rennes et membre de la commission Action non violente ANV COP21. Merci d'être venu.
Merci beaucoup. Merci.